après avoir jugé les autres, m'ava passé moi-même au jugement. Fait que ça se peut que je me auto-acquéris aujourd'hui. Acquéris, je voulais dire. Bon. David Morin est avec nous ce matin. Il est titulaire de la chaire, il m'a essayé de le dire d'un seul trait, titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Il est professeur titulaire également en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Morin.
Bonjour, Michel.
J'ai mal dormi hier.
Ouais, hein? Grosse journée, hein?
Oh, parce que là, les gens me tiraient des tomates. Pourquoi je donne autant de temps d'antenne à Dave Leduc, à un complotiste, à quelqu'un qui est totalement déconnecté, qui rêve en couleur? Moi, je voulais bien faire. Fait que dans le fond, la question que je vous pose ce matin, j'ai-tu bien fait ou pas?
Ben écoutez, il y a deux manières de le voir. Je trouve que finalement, j'ai écouté l'entrevue. Vous vous en êtes quand même bien tiré dans le contexte sur les questions, etc. Maintenant, ça soulève un débat plus général de savoir effectivement, est-ce qu'il faut leur donner le micro ou pas? Moi, ma réponse, elle est plutôt non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dave, bah, c'est un gars bien sympathique, etc., mais c'est pas parce qu'il a été champion d'arts martiaux, qu'il l'est encore du reste, que ça lui donne une crédibilité pour parler de ce sujet-là. Vous voyez, en quelque sorte, moi, j'ai visionné beaucoup de vidéos d'arts martiaux mixtes et d'UFC. Vous m'inviteriez pas dans votre émission pour en parler.
Non.
Donc c'est ça. Donc, je pense que le problème, c'est que souvent, parce que quelqu'un a une expérience crédible, etc., mais s'il venait pour tenir des propos, par exemple, xénophobes, etc., on l'inviterait pas. Donc, je pense que ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, à mon avis, dans ce débat-là, c'est que quand on donne le micro aux complotistes notamment, ils cherchent, eux, en fait, à convaincre du monde une personne à la fois. Ils veulent éveiller les consciences. Et quand le messager est sympathique, ça peut contribuer finalement à convaincre quand même des gens. Puis vous avez vu que c'est compliqué d'argumenter. Puis le dernier point, puis je vous relaisse la parole parce que je suis sûr que vous avez plein d'autres questions, c'est que je trouve que ce qu'on a tendance à faire, puis ça c'est pour vous hein, en particulier du tout, c'est à associer le mouvement de contestation et les complotistes comme si finalement seuls les complotistes dénonçaient les mesures sanitaires. Puis là j'ai un problème parce que on a beaucoup d'autres groupes dans la société qui sont impactés directement à la fois par la Covid et par les mesures sanitaires. Là je pense par exemple aux commerçants, je pense aux organismes communautaires et des associations de défense des droits qui dénoncent par exemple la politique répressive, en disant que mettre d'étiquettes, il y a des gens qui ne sont pas capables de les payer, etc. Ça, c'est des gens qu'on peut inviter en onde, qui vont se faire l'écho des effets, si vous voulez, de la pandémie sur des groupes de citoyens particuliers, mais qui ne vont pas avoir une espèce d'explication générale sur l'OMS, les États, les grandes pharmaceutiques, etc. Donc, si vous voulez, ils vont être capables de témoigner un peu de ce qu'ils vivent au quotidien et puis des effets des mesures sur leur vie, mais ils ne vont pas arriver avec une grande explication générale.
Alors, si je comprends bien, quelqu'un qui conteste les mesures sanitaires ou qui conteste une politique quelconque du gouvernement n'est pas nécessairement un complotiste, mais actuellement, dans la société, on les associe tout le monde, on les met tout le monde dans le même plat et c'est malheureux pour les gens qui ont des revendications, mais qui, dans le fond, n'adhèrent pas au mouvement de croire que la pandémie n'existe pas puis que le vaccin, c'est une rumeur pour enrichir les grandes compagnies pharmaceutiques.
Exact. Écoutez, moi, je connais des gens qui sont, et puis on a terminé un colloque il y a quelques jours avec des organismes communautaires et de droit civil qui, par exemple, dénonçaient les impacts du couvre-feu. Et c'était pas des gens qui avaient une grande explication pour expliquer que ce qu'on voulait, c'était contrôler les corps et les esprits du monde et que c'était un grand plan machiavélique du gouvernement. Ils disaient simplement, écoutez, le couvre-feu, franchement, a des impacts négatifs et nous, on vous explique pourquoi. De la même manière, je sais pas votre position là-dessus, mais on pourrait être, moi, par exemple, je suis pas favorable à rendre le vaccin obligatoire absolument. Je suis évidemment pour la vaccination, mais le rendre obligatoire, je suis pas convaincu. Ça fait pas de moi, évidemment, un complotiste avec une grande explication. Donc, je pense qu'on leur laisse trop de place. Et finalement, en ce moment, ils se drapent d'être un peu le défenseur de la veuve et de l'orphelin, qu'ils sont contre un état sanitaire fasciste, etc. Et donc, finalement, on leur laisse un peu trop de place dans l'espace public. Et il y a quand même beaucoup de médias qui les couvrent, hein. Moi, j'ai suivi notamment l'introduction, par exemple, enfin pas l'introduction, j'ai regardé le balado de Radio-Canada, Conviction, etc., où on dit qu'on n'en parle pas assez, mais on en parle quand même beaucoup. J'ai fait une micro-recherche sur une base de données qui s'appelle Eureka, là, qu'on utilise beaucoup en sciences sociales, et j'ai vu que juste la dernière année, quand on regarde toute la presse au Québec et juste la presse en français, j'ai trouvé 1000 entrées avec le terme complot et Québec. Donc ça veut dire qu'il y a près de 1000 articles qui ont été écrits là-dessus. Donc on en parle beaucoup quand même de ce monde-là.
Et en fait, je me sens mal. Vous êtes en train de me dire que j'aurais pas dû hier, puis je respecte ça, puis je pense que vous avez peut-être raison. Je vais l'admettre parce que il y a un danger qu'il y ait des gens. Il y a des gens qui ont carrément hier dit, ben voyons donc, il est malade, ce gars-là, ça les a pas dérangés outre mesure, à part dire, ça me tente même pas de l'entendre. Mais il y en a d'autres, vous pensez, qui ont été influencés par un discours comme celui-là.
Ben, c'est-à-dire, je dirais deux éléments. Alors effectivement, quand on écoute l'entrevue hier, pour le commun des mortels, on va dire non, ça n'a aucun bon sens. Mais bon, ça, on n'avait pas besoin de l'entendre pour se le dire, vous voyez. Donc, je dirais que les deux effets possibles, le premier, c'est que ça va renforcer finalement un peu son statut et sa notoriété au sein du mouvement, de quelqu'un qui est allé éventuellement se confronter sur les médias, etc. Donc ça, on lui donne un statut, à mon avis, auquel il n'a pas le droit. Mais encore une fois, le type, je le répète, est sympathique. Puis s'il venait vous parler d'arts martiaux ou de sujets, il n'y aurait pas de souci. Mais là, à mon avis, ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est que ben, je ne connais pas nécessairement l'ensemble de vos auditeurs, mais ça se peut, si vous voulez, si des jeunes, par exemple, écoutent, etc. Le fait que l'individu soit crédible ben, peut effectivement contribuer à semer des doutes ou des brèches, si vous voulez, dans la façon de voir les choses. Surtout parce qu'en ce moment, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse sur le plan psychologique, il y a beaucoup de gens qui sont affectés vraiment par la pandémie, qui ont peut-être l'impression de ne pas être entendus et qui vont trouver chez les complotistes une bonne raison, si vous voulez, d'adhérer à une espèce de nouveau groupe et se sentir accueillis dans le fait de ne pas être bien en ce moment, etc., dans le fait de pouvoir exprimer leur colère, etc. Donc, en ce moment, c'est vraiment ça, une des raisons de l'adhésion au mouvement complotiste. Si on n'a pas confiance dans le gouvernement, puis ça, vous l'avez bien souligné hier, on n'a pas confiance dans les médias, même si les médias et le gouvernement, c'est deux choses totalement différentes. Donc, si vous voulez, c'est chez ces gens-là les plus vulnérables potentiellement que ce discours peut percoler, et puis que finalement, ben, les gens vont aller regarder une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis finalement, ils tombent dans le trou de lapin, et puis ils finissent par embarquer. Alors, je dis pas que c'est ça nécessairement qui va arriver hier, et je pense que dans 98% des cas, peut-être des gens qui écoutent hier, c'est correct, et puis les gens vont dire ça n'a pas de bon sens, mais il suffit qu'il y ait 2%, puis finalement,
Vous qui avez suivi tous les grands leaders de ce mouvement contestataire, là, j'hésite à utiliser le mot complotisme, mais vous comprenez là, de qui je parle, de ces grands mouvements-là. Est-ce qu'il y a des traits de personnalité qu'on remarque qui sont communs à chacun d'entre eux?
Non. En fait, quand on regarde un peu la diversité du mouvement, alors là, je vous parle vraiment du mouvement des gens qui adhèrent plutôt aux théories du complot. On est en train de faire, nous, un recensement là des cinq principaux entrepreneurs et influenceurs. Un point important, hier, vous avez souligné, je trouve qu'il était intéressant, c'est de dire qu'il y en a certains qui ne s'enrichissent pas avec ça. Et ça, c'est vrai. Bon, on pourrait dire quand même que finalement, ils ont quand même intérêt à se faire du capital politique individuel, ils s'en font un peu là, même si c'est pas pour aller en élection, mais il y en a quand même certains, c'est comme ça. On en a d'autres qui sont vraiment des gens qui s'enrichissent et qui font beaucoup d'argent et donc qui vont au clic, etc. Donc, mais si vous regardez un peu les gens d'où ils viennent, vous avez beaucoup de gens qui sont des ex-influenceurs de la droite identitaire au Québec, donc que ce soit des anciens de la Meute, de Storm Alliance, etc. Puis vous avez cité des noms hier. Vous avez beaucoup de gens qui sont dans le mouvement anti-gouvernemental, donc les citoyens souverains, les libertariens, vous savez, là, ceux qui disent qu'ils vont pas payer leur ticket, qui contestent finalement les fondements, la loi de l'État, etc. Vous en avez quand même aussi un certain nombre qui viennent du côté plutôt spirituel. Et donc, il y a quelques églises, notamment, par exemple, évangéliques, mais il y a aussi des chrétiens intégristes, etc., donc qui sont dans ce mouvement-là. Puis finalement, on en voit aussi d'autres qui viennent plus de santé et bien-être, donc notamment des gens qui sont issus des médecines un peu alternatives, qui sont contre le vaccin, etc., etc. Donc, il y a vraiment une diversité.
Des Bernard Lachance, là,
il y en a de ce monde. Hein? Exact. Malheureusement, tristement, d'ailleurs, personne ne se réjouit de ça. Et puis, je présente mes condoléances, évidemment, à sa famille. Mais effectivement, vous avez des gens avec ces profils-là. Ce qui est intéressant par rapport à d'autres mouvements extrémistes que nous, on observe, c'est la présence de beaucoup de femmes. ce qui n'est pas habituel en général. Donc là, on a un certain nombre d'influenceuses dans ce mouvement-là, et l'âge aussi. On a des gens qui sont plus âgés que, en principe, ce qu'on voit habituellement, qui va être peut-être 25, 35 ans. On a beaucoup de gens qui sont au-delà de 35, 40 ans.
OK. Dernière question. Mettons que mon beau-frère ou ma belle-sœur ou encore mon collègue de travail, lui, il ne croit pas à ça du tout, la pandémie. Lui, il pense que c'est fait pour enrichir quelqu'un sur la planète. Il ne sait pas trop qui. Mais comment négocier avec ces gens-là au quotidien? Je vous pose la question.
Ouais, alors les trucs à pas faire, à mon avis, le premier, c'est d'argumenter absolument, de le confronter ou de se moquer de votre beau-frère. Ça, c'est pas une bonne idée, parce que s'il est vraiment brainwashé en ce moment, c'est pas le bon moment pour qu'il en sorte. Donc ça, vous savez, ce qu'on dit souvent là, on force pas un alcoolique à arrêter de boire, on attend que le processus émerge de lui, et puis là, on lui tend la main. Donc ça arrive à quoi faire ? Je pense que en ce moment, il y a aussi beaucoup de gens, on commence pas à sortir de la pandémie, mais ça va peut-être mieux. Donc il y a quand même des gens qui voient un peu le bout du tunnel. Donc il y a peut-être une bonne opportunité pour tendre la main. Je pense que le premier, c'est de valider le ressenti des gens. Donc de reconnaître qu'effectivement, on traverse une période difficile, puis que ça se peut qu'il y ait des effets sur lui. Ça me semble important. Il faut rester un peu assez ouvert, bienveillant, essayer de maintenir un dialogue peut-être, en posant des questions qui sont simples, etc., pour simplement aller chercher un peu chez la personne. Mais ultimement, je pense que vous n'êtes pas obligé non plus de prendre cette personne-là en charge. Donc, c'est maintenir un dialogue. Puis, le dernier point important, je pense, c'est qu'il y a quand même des ressources. Donc, si les gens sont vraiment mal pris, vous avez des organismes comme InfoSect, vous avez aussi les équipes Polarisation Sociale. Donc ça, c'est une équipe de Montréal, mais qui a aussi une équipe à Gatineau, hein, qui est rattachée au C3S de Gatineau. Et vous avez aussi, par exemple, le centre de prévention de Montréal. Donc vous avez des structures qui peuvent en fait donner quelques conseils aux familles, à l'entourage, aux proches, etc. Et ça, c'est un dernier point. Je pense que ça peut être important aussi de donner un peu la parole aux victimes du complotiste, pas juste finalement à ceux qui construisent ces discours-là. Et je pense que dans notre espace public, il y en a beaucoup, là, des gens qui se sont retrouvés, écoutez, moi j'en connais proche de moi, avec des ruptures de dialogue complètement dans la famille, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça interpelle, et peut-être qu'en allant discuter effectivement avec quelques victimes, etc., ça va donner aussi des clés pour d'autres pour essayer de savoir quoi faire. Donc voilà, c'est un peu ça que je vous dirais. Mais maintenir le dialogue en privé avec ces gens-là, peut-être envoyer de temps en temps une source valable qui dit bah, « Regarde, tu vois, finalement, c'est plus compliqué que ça, etc. »
Parce que c'est dur de ne pas aborder le sujet. On a chacun nos positions, puis il me semble que quand le gros bon sens est là, c'est difficile de ne pas vouloir dire à la personne qui prétend avoir trouvé sur Internet un médecin qui prétend que tous les médecins de la planète ne voient pas ça comme il faut. T'sais, c'est dur de dire « Ah ben oui, t'as raison » ou c'est dur, ouais, de ne pas s'obstiner. Moi, en tout cas, dans ma nature, puis je pense qu'on est une couple, là, c'est dur de ne pas dire « Hey, allô, réveille ». C'est difficile.
Ah non, mais moi aussi. Absolument. Non, mais moi aussi, je me chicane avec du monde sur ce sens-là. Dès que c'est politique, d'ailleurs, je me chicane. En plus, je suis français d'origine, alors je me chicane deux fois plus.
Le monde, ils doivent continuer en disant « Maudits Français, ils sont tous pareils
». Mais je pense que… Non, mais l'idée, c'est pas de pas en parler, vous voyez. Mais l'idée, c'est peut-être de dire « t'as pas de bon sens ». Il faut pas dire ça à quelqu'un « t'as pas de bon sens, tu comprends rien », etc. Et hier, je trouve… Et encore une fois, j'ai bien écouté l'entrevue hier, vous avez quand même amené des arguments. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi d'amener des arguments, mais de le faire… Après, on laisse à l'autre le soin de les interpréter. Mais ce que je veux dire, c'est que… il ne faut pas que les gens se découragent en face. C'est sûr que quand vous êtes vraiment dans la logique complotiste, finalement, vous faites partie du problème, vous n'êtes pas éveillé, et eux le sont. Donc, vous voyez, c'est plus ça. Mais ne pas renoncer à envoyer de temps en temps, comme je vous disais, une référence, une source, etc., puis à maintenir le dialogue, puis dire, écoute, on ne s'entend pas, parlons d'autre chose. Ce qu'il faut, c'est à tout prix maintenir une forme de dialogue, pas forcément sur ce sujet-là, sur un autre sujet, mais je pense que c'est ça qui est le plus important. Sauf si vraiment, là, on tombe sur quelqu'un qui est complètement radicalisé, qui se retrouve complètement en détresse et que vous pensez qu'il est dangereux pour lui-même. parce que c'est quand même aussi ça, une des conséquences importantes, ou pour les autres. Puis on a vu quand même des cas dans l'actualité de gens qui étaient complètement partis de travers, qui étaient armés, etc. Bon, bah là, il faut prendre peut-être, et d'ailleurs certaines familles ont signalé ça à la police, puis là, ont eu le courage de le faire. Mais ça, c'est très, 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 très minoritaire, vous voyez. Donc je pense que c'est pas ça le premier danger, c'est plus effectivement la rupture sociale, la rigidification de la pensée, et puis le fait que les personnes s'isolent et puis tombent dans des espèces de délire un peu.
Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. C'est instructif, puis ça va probablement m'apprendre la prochaine fois quand viendra le temps de traiter un sujet. Je vous remercie beaucoup, M. Morin, de votre passage à notre émission.
Je vous remercie pour votre ouverture, et puis je vous souhaite une journée plus calme aujourd'hui.
Sans doute beaucoup plus calme. Merci. Bye-bye.
Bonne journée. Bye.
Titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, il est professeur également en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, M. David Morin, qui vient de me dire peut-être qu'hier c'était une bien bonne idée, puis ça, t'as bien fait ça, mon Michel, mais c'était peut-être pas nécessaire. À tous ceux que hier ça a dérangé, je m'en excuse.